Bonjour et bienvenue à cette émission de conférence pectorale. Aujourd'hui, le pasteur Jean-Marc Brochu enseignera une première partie sur les fêtes d'Israël. Bonne écoute!
Alors, nous allons voir aujourd'hui les fêtes d'Israël. C'est un sujet vraiment intéressant dans la parole de Dieu. Il y a des révélations, il y a cette portion prophétique très répandue au sujet des fêtes d'Israël. Alors, ça vaut la peine d'y jeter un coup d'œil. Nous allons commencer par la première fête, la Pâque. Cette première fête qui a été donnée à Israël. Par elle, on voit se dessiner le grand plan de rédemption de Dieu, commençant par ce peuple d'Israël, et qui va s'étendre à toutes les nations dans le temps. Avant d'aller un peu plus loin, mentionnons, si on parle des fêtes, saviez-vous, entre autres, que le sabbat, qui a été prescrit au peuple d'Israël comme le temps de repos, comme Dieu lui-même s'était reposé après les 6 jours de création, le 7e, il s'est reposé. Bien, il a prescrit un sabbat pour son peuple d'Israël. C'est une prescription hebdomadaire perpétuelle. On voit cela dans Exode, chapitre 20, versets 8 à 11. Il est aussi considéré comme une fête, ce sabbat. C'est d'abord un signe, une alliance faite avec Israël, comme la circoncision. Le sabbat, ce repos est préfiguratif du repos ultime dans le Messie. Dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 4, versets 9 et 10, il est dit, « Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu, car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres comme Dieu s'est reposé des siennes. » À la Pâque, un agneau était sacrifié pour que le signe de son sang garde Israël de l'exterminateur. On lit cela dans Exode au chapitre 12 dans la Bible. Alors que les Égyptiens qui n'avaient pas ce sang étaient eux autres frappés d'un jugement terrible, la mort des premiers-nés. C'était au contraire pour Israël le début de l'affranchissement de l'esclavage de l'Égypte. L'agneau qui a été sacrifié à la Pâque dans le Nouveau Testament, c'est le Fils de Dieu. On le voit comme l'agneau qui ôte le péché du monde. Voici comment Jean-Baptiste l'a appelé dans le premier chapitre de l'Évangile de l'Évangile de Jean, au verset 29. La Pâque de l'hébreu Pessa signifie passage. C'est lui qui, par son sang, nous ouvre la voie, le passage, pour le salut. Il fallait que l'agneau pascal soit sans défaut. C'est ce qu'a été la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Elle était parfaite. Il fut le sacrifice rédempteur que ces bourreaux n'avaient pas idée qu'il était. On dit qu'il a été crucifié à 9 heures du matin. C'était le moment où l'agneau de la Pâque juive était sacrifié. Aucun de ses os ne devait être brisé de l'agneau pascal. De même, aucun des os de Jésus n'a été brisé. Le pain matza de la Pâque est strié et percé. Le Fils de Dieu fut également fouetté et percé. Joint à la Pâque, à la fête de Pâque, il y a la fête des pains sans levain aussi. On trouve cela dans Lévitique 23, versets 6 à 8. Le levain est vu à travers cette fête, puis dans plusieurs endroits dans l'Écriture, comme un symbole du péché. En nous rachetant, le Sauveur fait de nous une nouvelle pâte. Là commence le processus de notre sanctification en lui, la communion avec Christ, pour faire un seul pain avec lui. Mais elle peut être brisée, cette communion, par le péché. Elle se rétablit cependant par la repentance et la confession. C'est là qu'on fait disparaître le levain. Ensuite, il y a la troisième fête, la fête des prémices. Encore dans Lévitique 23, on l'appelle aussi de la moisson, prémices de la moisson, parce que c'était un moment où justement les prémices de la moisson étaient offertes à Dieu. La première gerbe de la moisson, elle illustre cette gerbe, la résurrection du Messie. Elle avait lieu le lendemain du sabbat, et Christ est ressuscité le lendemain du sabbat de la Pâque. On voit cela dans Matthieu 28. Il a été le premier et le seul à ressusciter pour l'incorruptibilité. Prémisse de la première résurrection. Prémisse signifie que d'autres fruits suivront tous les croyants qui le suivront dans la résurrection. Il y avait une libation de vin à cette fête. Elle symbolise la joie ineffable de la résurrection. Il y a eu un jour cet itinérant qui, dans sa misère, sa pauvreté, sa souffrance, a eu la pensée de rentrer dans une église pour parler au Seigneur. Il est entré et a dit simplement ces mots, « Jésus, c'est Sam ». Et c'était sa simple prière. Quelque temps après, il s'est retrouvé sur un lit d'hôpital et un peu avant de mourir, en fait, alors qu'il était malade, l'histoire nous raconte qu'il a eu une apparition. Le Christ lui est apparu et lui a dit « Sam, c'est Jésus ». Et il semble que peu de temps après, il est parti avec le Seigneur. Oui, la résurrection sera un jour glorieux pour les croyants. Quel est le principe des prémices? Dieu veut que nous le mettions en premier. Ensuite, il y a la fête des semaines. Encore dans le chapitre 23 de Lévitique, c'est la fête de la fin de la moisson du froment. Elle est appelée aussi en grec Pentecôte. C'est en rapport avec la période de 50 jours après l'offrande de la première gerbe. Bon, nous avons un passage dans Exode 23, 16 à ce sujet. Deux pains, au moment de cette fête, deux pains étaient présentés et agités. Cette fête de la moisson a été accomplie à la Pentecôte avec la naissance de l'Église. Dans Éphésiens au deuxième chapitre, on voit le corps de Christ, l'Église, qui est constitué des Juifs et des païens. Chacun est introduit dans le corps par le baptême de l'Esprit. On voit cela dans 1 Corinthiens 12, 13. Ce que représente l'offrande des deux pains avec le vin durant cette fête, qu'est-ce que ça représente? Bien, c'est vu comme les pécheurs juifs et non-juifs, les païens, qui vont constituer éventuellement l'Église dans le temps. Ils entrent bien sûr, à ce moment-là, dans un processus de sanctification. Avec la notion de prémices rattachée à la fête, on sait que ça concerne les prémices de la moisson d'été. Ces prémices, on voit dans les Actes des Apôtres, ce fut les 3000 premiers convertis, les Juifs convertis qu'on trouve dans ce livre-là. Et on voit Jacques qui s'adresse aux Juifs dans le premier chapitre de son épître. La moisson d'âmes a ainsi commencé avec les Juifs, mais elle s'est étendue aux païens par la suite, comme Jésus l'avait commandé, en fait. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Les quatre premières fêtes, donc, ont vu leur accomplissement lors de la première venue de Jésus. Ensuite, entre cette première venue de Jésus et son retour, c'est l'ère de l'Église avec son travail d'évangélisation dans ce monde. En Lévitique 23, 22, on trouve que ce qui restait à moissonner était gardé pour le pauvre et l'étranger ou l'immigrant, si vous voulez. Alors, il reste à s'accomplir lors du retour de Jésus trois fêtes, en réalité. La fête des trompettes, la fête des expiations et la fête des tabernacles. J'ai dit fête des expiations, c'est plutôt le jour des expiations. La fête des trompettes, qui est la cinquième, en hébreu, peut s'appeler Yom Teruah, elle a d'autres noms aussi. Les Juifs disent que la trompette, c'est pour leur rappeler leur péché. Il y a aussi une notion de jugement lors de ce jour particulier. Et si leurs péchés doivent être pardonnés ou s'ils sont pardonnés ou non, en fait. Le nom le plus populaire chez les Juifs, c'est Rosh Hashanah. Hein, c'est très connu dans le monde juif. C'est le jour de l'an juif. Ça veut dire le début de l'année, en effet, de l'an civil. Et selon la tradition, Dieu aurait même créé la terre en ce jour-là, dans les traditions juives. Il y avait avec le son du chauffard, la corne de bélier. En fait, ce son de la trompette, mais c'était à travers cet objet, le chauffard, la corne de bélier. Et le son, c'était dans quel but? Bien, c'était un appel à la repentance, à une introspection pour se mettre en règle devant Dieu. Un rappel aussi de l'alliance d'Israël avec son Dieu. Et finalement, on dit que c'était pour confondre Satan dans ses tentatives d'accusation contre Israël, dans Zacharie au troisième chapitre. Le son du chauffard est aussi vu comme un symbole du rassemblement d'Israël. Ensuite, comme symbole de la résurrection, car la trompette sonnera en ce jour. Lorsque la trompette sonne, en fait, il est dit dans le monde juif, trois livres sont ouverts dans les cieux. Le livre des justes, premièrement. Là, dans ce livre-là, sont inscrits ceux qui obtiennent faveur de Dieu cette année-là. Ensuite, il y a le livre des méchants ou de la mort. Et là, ils sont inscrits ceux qui vont mourir dans l'année. Et le troisième, qu'on appelle les intermédiaires, bien, c'est comme la majorité des Juifs qui ne sont ni pleinement justes ou pleinement méchants. À cette fête, ils sont donc pour la plupart inscrits pour 10 jours, il y a cette période. C'est le temps qu'ils ont pour se repentir entre le jour des trompettes et le jour des expiations. Sa signification messianique, on lit dans Ésaïe 27, 13, en ce jour-là, on sonnera de la grande trompette et alors reviendront ceux qui étaient exilés au pays d'Assyrie ou fugitifs au pays d'Égypte. Ils se prosterneront devant l'Éternel sur la montagne sainte à Jérusalem. Le rassemblement d'Israël doit avoir lieu avant la grande tribulation. La fête des trompettes se concrétise ainsi. Et c'est l'enlèvement de l'Église qui va accomplir pleinement cette fête en réalité. Nous avons cet enseignement sur l'enlèvement de l'Église dans 1 Thessaloniciens 4, 18. Il y aura résurrection des saints. Comme la fête des trompettes précède le jour des expiations, l'enlèvement va précéder la grande tribulation. C'est par Jésus seul que nos noms peuvent être inscrits dans le livre de vie. Au sujet de la repentance, on doit tirer exemple de cet enseignement chez le peuple juif, pour que nous soyons en fait tous prêts, juifs et non-juifs, pour le retour du Seigneur. Ensuite, sixièmement, il y a le jour des expiations. Ça peut s'appeler le jour du grand pardon, en hébreu Yom Kippour. Quoique classé parmi les fêtes, l'esprit de ce jour n'en fait pas réellement une fête. On voit donc dans Lévitique 23 et le verset 29 où il est dit « Toute personne qui ne s'humiliera pas ce jour-là sera retranchée de son peuple. » Dans Lévitique 16, on voit que le lieu très saint ou le Saint des Saints n'est accessible qu'à une seule personne, le souverain sacrificateur, le grand prêtre. Et il y entrait seulement ce jour-là dans toute l'année. Dans Lévitique 16, les versets 3 à 5, il est prescrit comment il devait se préparer pour offrir un bœuf, un taureau. Il y a les vêtements prescrits pour l'occasion et les deux boucs que le peuple devait offrir. Dans les versets 6 à 10, il tirait au sort sur les deux boucs. Cela servait pour savoir lequel serait offert comme offrande pour l'expiation des péchés et lequel des boucs serait offert comme le bouc émissaire pour Azazel, celui qui est relâché dans le désert, n'est-ce pas? Le grand prêtre entrait premièrement dans le lieu très saint avec le sang du taureau pour l'expiation de ses propres péchés d'abord. Ensuite, il pouvait faire l'expiation des péchés du peuple.
Bien, chers auditeurs, c'est déjà la fin de l'émission. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un autre enseignement du pasteur Jean-Marc Brochu. Pour info, vous pouvez consulter notre site Internet à cette adresse www.conférencespectorale.org. Vous pouvez également voir notre local d'exposition de nos maquettes de l'histoire d'Israël à l'adresse arcexposition.wordpress.com. Et vous pouvez joindre Jean-Marc à l'adresse courriel pectoralia@gmail.com. À bientôt!